Vous écoutez France Culture.
Dime que son los secretos de tu alma. Dime cuál es el camino de tu divino amor.
Les racines du ciel. Émission de Frédéric Lenoir et Lélie Anvar, réalisée par Clotilde Pivin, préparée par Marie Dalquier, avec à la prise de son Catherine Déréthé. Aujourd'hui, nous recevons Éric Geoffroy pour parler du soufisme. Éric Geoffroy, bonjour.
Bonjour.
Bonjour Lélie.
Bonjour Frédéric.
Ah bah tiens,
bonjour.
Aujourd'hui Lélie, si vous voulez bien, je vais vous laisser présenter l'invité puis guider un peu l'émission parce que vous connaissez bien mieux que moi le sujet. Comme ça, je pourrais jouer votre rôle et dire de temps en temps, mais expliquez-moi, je ne comprends pas, je ne suis pas d'accord.
Vous allez poser des objections alors.
Voilà, je vais poser des objections.
D'accord, je veux bien prendre ce rôle à condition qu'évidemment notre dialogue ne cesse jamais. Donc Éric Geoffroy, vous êtes à la fois un universitaire, puisque vous êtes spécialiste du soufisme, vous êtes ce qu'on appelle un islamologue, bien que ce terme soit un peu sujet à caution, on va dire. En tout cas, vous êtes professeur des universités à l'université de Strasbourg et vous avez publié de nombreux ouvrages académiques sur cette question du soufisme. Mais vous êtes aussi un praticien du soufisme. Donc vous avez à la fois ce regard extérieur, cette distance qu'impose le regard universitaire, et en même temps une pratique intérieure qui est peut-être nécessaire à une compréhension profonde. Vous avez donc, comme je l'ai dit, publié de nombreux ouvrages, dont un ouvrage vraiment de référence au seuil qui s'intitulait « Le soufisme, voie intérieure de l'islam », qui a d'ailleurs été repris en collection de poche. Et puis aussi un ouvrage tout à fait passionnant qui s'intitule « L'islam sera spirituel ou ne sera pas », toujours au seuil, en 2009. Et tout récemment, donc en 2013, vous avez publié dans la collection « Erol pratique » le soufisme, tout simplement, qui est plus un manuel, un guide, une sorte de petit dictionnaire qui permet de comprendre comment ça fonctionne et qu'est-ce que c'est que le soufisme. Je dirais donc qu'il y a une vraie continuité dans votre travail, et cette continuité, elle englobe aussi, elle est aussi vraie de votre vie et de votre pratique. Donc peut-être que, prenant ici le relais de Frédéric, je vais commencer par là où il commence. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous êtes venu au soufisme avant de nous dire ce que c'est que le soufisme ?
Écoutez, lorsqu'il y a une énergie qui vous pousse vers différentes directions, mais en tous les cas, il y a un but qui est là. Ce but est parfois inavoué, puisque le nom de Dieu est ineffable. Donc je dirais que j'ai une quête spirituelle. Vous savez, c'est les années 70-80 plutôt, quand même, je ne sais pas si vieux que ça, 80. Donc, comme d'autres, hein, j'ai eu cette quête spirituelle, je dirais tous azimuts, c'est-à-dire sans préjugés, venant donc d'un milieu catholique, pratiquant, mais un petit peu terne, on va dire. Voilà, j'ai une démarche suite à une maladie. Et je peux dire que la maladie a été un cheikh, a été un maître spirituel, puisqu'Ibn Arabi dit que tout, un animal, une gouttière, il dit, etc., peut être un maître spirituel, c'est-à-dire peut être un miroir pour nous-mêmes. Et voilà, donc j'ai pratiqué le bouddhisme zen durant 2 ans. J'ai été également chez les bouddhistes tibétains en France, dans des monastères catholiques, etc. Et bon, j'avais eu déjà une première approche donc de l'islam soufi et de la langue arabe aussi, qui supporte cette méthode spirituelle. Et donc je suis revenu donc après quelques années à cette méthode. Et donc, je suis en effet entré en islam, mais pour la démarche ésotérique, métaphysique et spirituelle qu'elle comporte, c'est-à-dire donc globalement le soufisme. Et j'avoue qu'une femme a joué beaucoup dans cette démarche, Eva Dvitra Mihorovic, celle qui a fait connaître Rumi en France. Hein, et une petite. Bon, j'étais un grand comme ça, un grand gars, voyez, en pleine quête comme ça, et cette petite femme là, elle est directement à l'essentiel. Je l'ai vue quelques fois, mais c'était direct. Hein. Il y avait vraiment, elle allait à l'essentiel. Donc en quelques minutes, voilà. Donc quand on me demande justement qu'est-ce qui vous a amené à etc. Je pense toujours à elle.
Je me suis toujours posé une question. Est-ce que lorsqu'on rentre directement comme ça dans le soufi, c'est-à-dire dans la dimension spirituelle, la mystique, est-ce qu'il faut nécessairement se convertir à l'islam?
Oui et non. Hein. Bon, là, je réponds, enfin, selon la supralogique soufie et comme répond Ibn Arabi, c'est pas oui ou non, c'est oui et non. Hein, c'est-à-dire qu'à la fois le soufisme et cette sagesse, en fait, universelle qui s'incarne dans le corps de l'islam, même si l'islam à l'origine devait avoir moins de corps que d'autres religions, puisqu'il abolit le clergé, les sacrements, etc. Mais il y a eu comme un corps. Hein. Et les soufis eux-mêmes ne voulaient pas avoir de corps. Hein. C'est-à-dire qu'ils voulaient être transparents à l'être, mais ils ont été obligés d'avoir un corps historique face à la déviation, je ne sais pas, mais en tous les cas, à l'hypertrophie du droit qui s'est fait jour très vite dans la culture islamique. Donc les soufis ont dû faire le contrepoids, si vous voulez. Pour revenir à votre question, je pense que dans la plupart des ordres, des confréries soufis, disons, actuelles en Occident, les gens qui ne sont pas musulmans, mais qui ont une démarche authentique, et ça se sent tout de suite, ou bien qui ont une prédisposition, ils sont acceptés jusqu'à un certain point dans les pratiques donc spirituelles. Alors, il y a toujours des exceptions, mais c'est vrai que pour pratiquer des retraites spirituelles, par exemple, des khalwas, qui là, c'est quand même très intensif comme pratique, avec du support lié donc à l'islam, hein, c'est-à-dire des non-divins, donc coraniques, et en principe, il faut être quand même dans l'économie générale de l'islam. Mais il y a des cas particuliers.
Mais vous-même, si on vous pose la question, est-ce que vous êtes musulman, vous répondriez oui ou non?
Ah oui. Non, là, bien sûr, tout à fait. Bon, moi, je suis entré en islam, pour le soufisme, mais je suis entré en islam. Là, j'avoue que je suis entré en soufisme d'abord. Si je peux me permettre, j'étais au Caire, je faisais un stage d'arabe, justement, pour pouvoir lire les textes soufis en 83 ou bien 84, et puis de la tombe, enfin, d'un sanctuaire d'une sainte, d'ailleurs, Sayyida Nafisa, on m'a fait entrer en islam, et pour moi, c'est une entrée en soufisme, mais c'était un petit peu, pour eux, c'est très naturel, vous savez, c'est quelque chose, restaurer le pacte initial donc établi avec Adam jusqu'au prophète, voilà. Et je me suis retrouvé comme ça, et là, en fait, je pense que le cheikh avec lequel j'avais le contact au Caire, qui est un cheikh très particulier, qui ne parlait pas, en fait, il enseignait par des gestes et par des supports, mais très, 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 très bizarre. Il y en a comme ça. Je crois que je suis vraiment entré en soufisme. Il a fallu que je rentre en France, chez moi, dans ma culture, pour faire le point.
Hein, c'est-à-dire qu'on vous pose la question,
voilà.
Que je viens de vous poser.
Voilà, tout à fait. Et là, réellement, je suis entré, en islam. Enfin, pour moi, l'islam, ça fait l'universel, comme toute religion doit amener vers l'universel.
Oui, c'est Goethe qui disait, en parlant du poète Hafez, il disait « Entre nous, l'islam n'est pas un obstacle, puisque si islam veut dire se soumettre à Dieu, nous naissons et nous mourrons tous dans l'islam. » C'est quand même Goethe qui parle.
C'est Goethe, ouais.
Et donc, ça nous... Souvent, on a eu quand même des invités qui nous parlent du bouddhisme, du christianisme, enfin de toutes sortes de traditions religieuses différentes et qui en viennent toujours à cela. C'est-à-dire qu'il y a d'une part, évidemment, l'appartenance historique, rituelle, et de l'autre, finalement, toute personne qui est dans une démarche spirituelle est quelque part soufie, bouddhiste, chrétienne, juive. Et,
bien sûr.
Et il porte. Et c'est une des choses, d'ailleurs, qu'on retrouve de manière très forte chez Ibn Arabi, si je ne me trompe. C'est-à-dire cette assimilation de la totalité du message divin à travers les différentes figures.
C'est incroyable. Il a des paroles d'une force. On est vers l'an 1200. Donc, il est à ce moment-là, donc il est en Syrie, la Grande Syrie, avec les croisés qui sont donc à côté. Et il dit, ne limite pas ton horizon à ton ego et à ta croyance. Sinon, tu perdrais l'essentiel. Chaque religion comporte une part de vérité. Hein, et donc, il faut synthétiser en soi, sans syncrétisme évidemment, mais il faut avoir cette vision donc, d'un processus toujours continu, permanent de la révélation, et bien sûr, et qui pour les musulmans bon, s'accomplit en Mohammed, enfin, par Mohammed, mais qui est un processus tout à fait vivant. Hein, et il reprend cette parole donc, de Junaïd, hein, la couleur de l'eau est celle de son récipient. Hein, donc c'est toujours ce processus d'intériorisation, ne te laisse pas abuser par les formes. Les formes, donc, y compris donc islamiques, voient à travers. Donc, à ce niveau-là, et pour Ibn Arabi, toujours, la charia, hein, cette fameuse charia, et qui ne veut pas dire la loi, d'ailleurs, en arabe, la charia veut dire le chemin qui mène à la source d'eau vive. Eh bien, cette charia, c'est la réalité divine pour lui. C'est une seule et même chose. Hein, c'est-à-dire il n'y a pas une distanciation, en fait, à opérer, si ce n'est qu'elle opérait dans notre tête. Et dans notre mental. Mais la charia, c'est quoi ? C'est respirer, c'est vivre donc dans l'intérieur, les piliers de l'islam, c'est quoi jeûner ? Est-ce que c'est simplement donc, se priver de nourriture de telle heure à telle heure, etc. ? C'est quoi le pèlerinage ? S'il n'y a pas un commentaire ésotérique, il faut le dire, donc des rites du pèlerinage, on se dit, mais bon, pourquoi on fait ça à tel moment et ça à tel moment et, voilà, et etc., etc. Et surtout, le premier pilier, c'est-à-dire la profession de foi. C'est quoi l'unicité divine ? Un grand savant, mais qui était donc soufi, mais aussi un savant, en tout cas, Zakaria Al-Ansari, donc de la fin de l'époque mamelouk, nous dit, et c'est un grand juriste aussi, il nous dit, il faut passer, bon là je dis en arabe, il faut passer du ilm et tawahid, donc d'une science extérieure de l'unicité divine, au hal et tawahid, à l'état intérieur du tawahid.
De l'unicité divine, donc.
De l'unicité divine. Voilà, donc c'est, oui, ce que je veux dire, c'est que finalement, c'est cette séparation entre exotérisme et ésotérisme, et qui pourtant est très présente en islam, hein, enfin dans le vécu, c'est une illusion, de plus. Hein, bon, tout est là en nous, simplement, ça dépend en fait du degré de conscience donc de chacun. Et c'est pour ça qu'on a des témoignages très, très beaux. Je me rappelle, dans les sources que j'ai lues, de grands cadis, de mouftis, etc., qui découvrent la voie spirituelle tardivement. Et les regrettent. Ils disent, mais j'ai passé ma vie à faire le potage, hein, vous voyez, donc à prendre le droit, ceci, la théologie, cela, et les arguments pour et contre. Et voilà qu'il y a cette voie spirituelle qui est là, qui est transparente et qui nous rend, en fait, à nous-mêmes. Hein, et qui nous libère, quoi. Et donc, il y a des témoignages comme ça. Bon, c'est ce qu'a vécu Razeli, c'est ce qu'a vécu Rumi, c'est ce qu'a vécu hein, cette ouverture.
Oui, peut-être deux mots, justement, sur Razeli. Expliquez-nous qui il était et en quoi, justement, c'est ça qu'il a vécu. C'est vrai qu'on pense immédiatement à lui quand vous pensez au fait que, quand vous parliez du fait qu'il y a des gens qui passent toute une vie, la moitié de leur vie, oui, à étudier la théologie, et d'un coup, ils découvrent que...
Ben Razali est
emblématique.
Oui, alors Razali est vraiment l'archétype ou le prototype du savant soufi et qui va être un profil donc continu et jusqu'à nos jours. C'est-à-dire des grands, bon, les grands mouftis, etc., qui vont être également soufis. Mais lui, il a déjà en fait une caution. Bon, il meurt en 1111, hein, donc, il meurt à la fin donc, du 11e. Il vit à la fin du 11e. Et il est déjà connu comme un grand savant exotérique. Il maîtrise toutes les sciences islamiques, formelles, exotériques, argumentatives. Et voilà que ce monsieur, qui est l'homme le plus en vue, voilà que tout d'un coup, il a une crise spirituelle, donc il peut dire 6 mois, en fait, il en parle après, où il ne peut plus même parler. Parce qu'il dit, je doutais, non pas de Dieu, mais je doutais de ma perception au monde. Hein, parce que là, j'ai eu conscience que je vivais dans l'illusion. Et de fait, nos sens nous trompent. Lorsque je regarde telle ou telle chose, en fait, mon cerveau corrige. Donc déjà, à ce niveau-là, nos sens nous trompent. Lorsque je vois un avion décoller, je me dis, mais en fait, il décolle dans le vide parce que l'air nous semble vide, alors que l'air est plein, etc., etc. Et donc, Razali vit cette crise et surtout, il se dit que le fait de maîtriser toutes ces sciences argumentatives, rationnelles, ne l'a pas rapproché de Dieu. Et donc là, à l'issue donc de cette crise, il part durant 10-11 ans, donc au Proche-Orient, en ermite, en retraite. Et là, il connaît vraiment donc les soufis, donc le milieu soufi qu'il avait connu un petit peu jeune. Et c'est cette période donc durant laquelle il va écrire Ihya al-Mudin, donc la revivification des sciences et de la religion. Bon, qui est une somme, qui n'est pas un traité de soufisme, mais qui énonce la matière islamique avec un éclairage soufi. Donc c'est très pédagogue, si vous voulez. Hein, donc il y a toute la matière islamique, je dirais, mais il lui donne un éclairage soufi qui ne choque pas trop, parce qu'il ne faut pas trop choquer donc, les intelligences communes, on va dire. Mais il réussit donc à donner cette touche et ce zouk, hein, ce goût. Hein, l'islam n'est pas uniquement des normes, des connaissances formelles, extérieures. Non, c'est avant tout une gustation. Et ça, c'est l'épistémologie soufie. Si vous voulez, hein. Et cette gustation, elle passe traditionnellement dans le soufisme par deux moyens qui sont vraiment épistémologiques, on peut le dire. C'est ilham, donc l'inspiration, qui est héritière de la révélation prophétique, qui s'est donc tue de la mort de Mohammed, selon l'islam, et le kashf, c'est-à-dire le dévoilement spirituel. Ibn Arabi nous dit que celui qui n'a pas de kashf n'a pas de science. Elle n'a pas de ilm du tout. C'est-à-dire qu'une science qui se réduirait à une seule opération mentale, donc égotique, eh bien, n'est pas une science.
Oui, il ne faut pas apprendre par cœur, mais par le cœur.
Voilà, tout à fait.
Et alors, on est parti là où on est arrivé à la fin, au début du XIIe siècle, mais peut-être refaisons chronologiquement cette histoire quand même du soufisme. Vous avez parlé beaucoup d'eau, de transparence, ce qui m'amène à vous poser la question sur l'origine même du mot soufisme, qui d'une certaine façon commence avec l'islam même.
Oui. Alors bon, les recherches font monter de plus en plus loin la présence du terme dans la culture islamique. On sait en tous les cas que déjà du temps du calife Muawiya, donc c'est 50 ans après la mort du prophète, le terme est déjà répertorié. Et certains vont jusqu'à dire qu'il est déjà présent du temps du prophète. Bon, mais en tous les cas, comme disait donc un cher donc iranien connu du XIIe siècle, le soufisme était à l'époque du prophète une réalité sans nom. Il est maintenant, au Xe, au XXe, au je sais pas, il est maintenant un nom sans réalité. Bon, ça c'est toujours un processus hyperbolique pour stimuler les disciples, leur dire écoutez, voilà. Donc ça veut dire quand même que fondamentalement, du vivant du prophète, l'islam, et Ibn Khaldoun, qui est lui un grand rationaliste ou bien un grand rationnel, le dit. Hein, donc l'islam était vécu que comme un tout. Hein, donc il y avait bien sûr l'aspect spirituel avant tout, puisque une religion sans message spirituel n'est plus une religion, c'est une idéologie. Hein. Et donc l'aspect ésotérique, spirituel, était vécu avec l'aspect éthique, avec l'aspect donc quotidien, etc. Hein, donc du coup le terme émerge en effet, et comme je disais, donc là je citais Chibli qui est un être très très paradoxal, donc l'école de Bagdad, donc l'école de soufisme, et le mot soufisme vient de cette école, donc à Bagdad à partir de la fin du 9e siècle et puis 10e siècle, on a donc le terme tasawwuf qui énonce le fait d'être soufi. Hein, et qui émerge. Et donc Chibli nous dit, ce que je disais un petit peu avant, que les soufis n'auraient pas dû avoir de dénomination, ils auraient dû être transparents. Alors ce terme, il a plusieurs étymologies possibles. D'un point de vue étymologique et puis linguistique, il y en a deux qui sont plausibles, disons. Hein, c'est souf, donc la laine, puisque les ascètes, qu'ils soient d'ailleurs chrétiens, hein, au Proche-Orient ancien, ou bien musulmans, ou juifs, ascètes, ermites, etc., par signe d'abandon du monde, eh bien, revêtaient une bure de laine rapiécée, qui va être appelée après el moraka, dans le soufisme déjà un peu plus constitué. Et voilà, donc c'est celui qui porte la laine par signe de pauvreté. Mais l'exception que je reçois et qui est plus spirituelle, disons, plus immédiatement spirituelle, c'est bien sûr Safa. Soufi, ou al-ladhi soufia, c'est celui qui se purifie ou qui était purifié. Donc c'est l'idée donc de pureté. Et de fait, la voie spirituelle, à ses débuts, en soufisme, mais toujours, c'est une purification, c'est un dépouillement, et tajrid. Hein, Abou Yazid Bistami, un des premiers grands soufis donc, d'Asie centrale, disait « Je me suis desquamé de moi-même comme le serpent donc, se desquame de sa peau. » Donc il y a tout un processus initiatique, rapide, lent, ou bien les deux à la fois, hein, qui fait qu'il y a un travail sur soi, parce que logiquement, on ne peut pas prétendent se rapprocher de la lumière divine sans ôter au moins un peu de ténèbres égotiques. Mais ça, c'est bien sûr propre à toutes les démarches spirituelles. Non,
justement, c'est une question que je me posais. Donc, le soufisme naît dans la religion et la culture musulmane presque dès l'origine. Oui. Mais est-ce qu'il est influencé, en tant que courant mystique, spirituel, ésotérique, influencé par d'autres traditions spirituelles qui ont précédé l'islam? Notamment, vous avez parlé des ascètes chrétiens. Est-ce que le soufisme a pu exister dès le début aussi parce qu'il y avait ces influences extérieures?
Alors, en gros, je dirais que Louis Massignon, donc est mort, donc un grand spécialiste du soufisme, hein, meurt en 1962, a été souverain pour comme établir globalement que le soufisme a une essence islamique et en fait une essence coranique. Ce qui ne veut pas dire pour autant que, enfin ce qui n'empêche que en effet le soufisme n'a pas été influencé par l'ascétisme chrétien proche-oriental, par la gnose gréco-alexandrine, par le judaïsme, par la kabbale. Alors, mais certes, mais en échange, le soufisme a aussi influencé. Donc là, on a plusieurs hypothèses, ou bien, tantôt donc, qui semblent très réalistes, ou bien d'autres qui sont plus farfelues. Mais je veux dire par là que ça ne peut pas constituer, je dirais, le fond du soufisme et la cause, donc d'épanouissement du soufisme. Mais moi, je me rappelle lors de conférences, parfois, des gens qui me disent, mais écoutez, on ne comprend pas comment des êtres comme Rumi et Ibn Arabi se sont abaissés, ils me disaient, allez dans le Coran, prendre leur spiritualité, alors que ce sont des êtres universels. Je lui dis, mais est-ce que vous connaissez le Coran réellement, justement, et expliqué par Ibn Arabi ou bien par Rumi. Vous voyez ce que je veux dire?
Vous voulez dire que le texte coranique suffit à lui-même pour expliquer par la spiritualité dont il est porteur,
la teneur
spirituelle, pour expliquer tout ce qu'a été le développement du soufisme, dès le départ, tel que vous l'avez expliqué avant. Qu'évidemment, c'est pas effectivement l'image qu'on peut avoir souvent du Coran, qui est une image plutôt juridique.
Oui, alors qu'on sait très bien maintenant, et là les études sont très précises, on le savait déjà, mais concernant le Coran, il n'y a que 3-5% des versets qui ont une teneur juridique. Donc le Coran n'est ni un texte juridique, ni un texte théologique.
Ou d'organisation de la société.
Oui, mais c'est un texte qui surprend toujours. Et c'est pour ça que les interprétations multiples des soufis par rapport à tel ou tel verset du Coran sont toujours des explosions de sens. Parce que il y a donc un niveau, parce que le Coran doit parler à tout le monde, à toute l'humanité, ou bien à ceux qui se reconnaissent dedans. Donc les vérités cachées, il faut les dénicher. C'est l'aspect initiatique, gnostique qu'on retrouve un petit peu partout. Mais c'est très fort évidemment à partir du texte coranique où il y a certes des versets à teneur ésotérique, c'est-à-dire qui sont clairement donc initiatiques, ésotériques, mais c'est pas la majorité, bien sûr. Mais dans les versets, je dirais même de type normatif, le soufi, au sens générique, va trouver des sens.
Des sens symboliques, spirituels, etc. Oui. Comme dans la lecture de la Bible, d'ailleurs.
Bien sûr.
Il y a toujours plusieurs niveaux de lecture qu'on peut faire, un niveau littéral, un niveau symbolique, un niveau...
Tout à fait.
Oui, d'ailleurs, même à l'intérieur du niveau symbolique, il y a différents niveaux. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est que c'est les grands écrivains du soufisme, parce qu'il y a évidemment beaucoup de soufis qui n'ont pas écrit, mais je parle des très grands poètes et des gens comme Ibn Arabi, ils montrent bien qu'en fait, c'est un sens qui est sans cesse en train de se renouveler. J'ai en tête ce que Shams dit à Rumi, donc le maître de Shams dit à Rumi, il lui dit si tu crois qu'un jour tu as trouvé la signification, sache que ce que tu as trouvé est faux. C'est-à-dire c'est un processus qui est sans fin, et c'est peut-être très particulier au soufisme, ça.
میره سادین ندان ندان میره سادین ندان ندان درگاه فیض و بسته نیست درگاه فیض و بسته نیست طالب من بیا بیا درگاه فیض و بسته نیست tale me man biya biya wa kaza faize sobadam khalqon darad agahi wa kaza faize sobadam khalqon darad agahi dabdabe tajalliyas dabdabe tajalliyas didaye dil gosha gosha.
Vous êtes sur France Culture dans l'émission Les Racines du Ciel en compagnie d'Éric Geoffroy. Nous parlons du soufisme. Je rappelle son dernier livre, Le Soufisme, aux éditions Erol.
Oui, alors nous avons parlé de l'interaction du soufisme et de l'islam, c'est-à-dire du fait que le soufisme est vraiment, c'est de l'islam, tout simplement. C'est même pas que ça vient de l'islam, c'est que c'est de l'islam. Et les soufis eux-mêmes disent qu'au fond, le premier soufi, c'est le prophète Mohammed lui-même, puisqu'il réunit en lui-même toutes ces qualités qui sont censées être celles du soufi, la pureté, l'inspiration, l'agustation, l'expérience, le dévoilement intérieur, etc. Et vous nous avez apporté une traduction que vous avez faite d'un poème du Cheikh Alaoui. Vous allez nous dire tout à l'heure qui est donc ce Cheikh Alaoui. C'est un texte sur la lumière mohammadienne. Et ça nous permet de voir comment le soufisme ne transcende pas que le texte coranique, mais aussi l'histoire même de la, pour faire entrer le personnage même de Mohammed, non plus dans l'histoire, mais dans ce qu'on appelle la méta-histoire. C'est-à-dire qu'il devient une sorte de manifestation de la lumière divine. Ouais. Et à ce moment-là, le prophète historique disparaît devant cette figure d'inspiration intérieure. Que Dieu te comble de grâce, ô lumière de toute demeure, ô toi, le meilleur qui soit en toute demeure. Ô envoyé de Dieu, tu es la lumière ayant pris forme. Lumière sur lumière, tu es venu, par elle, le Coran est descendu. Niche, lumière, huile et clarté, en toute harmonie, tu es venu. Le cosmos ne s'est révélé que lorsque ta présence l'a embelli. Tu as dit toi-même que ce monde, à partir de toi, avait pris forme. De la sainte présence, tu viens et tu n'as cessé d'y demeurer. Tu étais avant que ne soit l'univers. Certes, tu étais là où il n'est ni commencement ni fin. Libre et absolu tu étais, puis tu as été magnifié par les entraves du monde contingent. Il n'y a rien, non rien dans l'existence, hormis, je l'atteste, cette lumière, surgit du monde du mystère, elle est descendue des sublimes sphères. Ô envoyé de Dieu, tu es gratifié de la quintessence de toutes les faveurs. Ô envoyé, tu demeures, et dans ton obédience, je demeure.
Ah voilà, donc le thème de la lumière mohammedienne, donc Nour al-Mohammadi, qui va être théorisé, disons, dans un cadre un peu plus large, qui est donc celui de la réalité mohammedienne, al-Hakik al-Mohammadiya. C'est-à-dire que si le prophète Mohammed est historiquement et donc physiquement le dernier prophète envoyé pour cette humanité, donc toujours selon la perspective islamique, d'un point de vue métaphysique et donc métahistorique, il est le premier donc prophète issu en effet de la lumière divine. Et cette lumière donc mohammedienne, elle est la première chose existentielle. Et selon donc certains hadiths qudsi, donc des propos saints où en fait ce n'est pas le Coran, c'est Dieu qui parle en général à la première personne du singulier, sur un ton athémiste souvent. Et en fait toujours spirituel, et donc où il dit que si sans toi, enfin n'eût été toi, Mohammed, je n'aurais pas créé le cosmos. Donc Dieu crée le monde par amour, d'une part, bon ça on le trouve ailleurs, mais par amour de cette entité métaphysique mohammedienne.
De cette essence en fait. Oui.
Oui. Oui, voilà. Et donc le prophète lui-même en parle, un compagnon lui demande quelle est la première chose créée au prophète, et le prophète donc de répondre, la lumière de ton prophète. Et il y a d'autres paroles de lui-même en ce sens. Et c'est ce qui fonde toute la démarche initiatique sunnite au sens radical du terme, c'est-à-dire suivre la sunna du prophète, suivre le modèle mais spirituel du prophète. Là où certains musulmans s'arrêtent à l'imitation formelle, on sait que le prophète aimait la courge, alors bon, ben, il faut mettre la courge parce que voilà. Voilà, c'est ça qu'on trouve.
Mais ça arrive partout.
Voilà. Et donc voilà, donc les soufis, tout en étant conscients que bon, les prophètes ont, selon la théologie musulmane principielle, ont un degré spirituel supérieur à celui des saints, eh bien les saints de cette humanité post-prophétique, puisque selon l'islam nous vivons dans une humanité post-prophétique, il n'y a plus de prophètes, eh bien les saints ont accès à cet héritage prophétique, à cet héritage mohammedien. Et donc on le voit dans tout le cheminement en fait, initiatique soufi progresse et culmine dans cette imitation du prophète et dans son mode d'être spirituel, qui n'est pas toujours connu, y compris des musulmans, en fait de certains musulmans, et alors même que nous avons des paroles du prophète lui-même, et nous avons donc des gens qui parlent de cela, et qui parlent donc de son degré spirituel. Mais précisément, en quoi consiste son degré spirituel? C'est tout en étant en Dieu, c'est d'être ramené vers les hommes. C'est toujours un petit peu une souffrance, et les saints en parlent comme d'une souffrance, revenir parmi les hommes pour témoigner et pour être, bon, dans le cas du prophète, donc envoyé de Dieu, donc répandre une voix, etc., et aussi une loi, mais aussi témoigner donc d'un point de vue spirituel. Et on voit très bien que le prophète a un enseignement exotérique pour la masse et il a un enseignement ésotérique pour quelques compagnons. Donc il faut bien voir que l'enseignement de l'islam autour des maîtres spirituels et a fortiori autour du prophète fonctionne par ondes. Il y a les ondes proches, si vous voulez, et puis après, donc, on s'éloigne. Et parmi les compagnons, qui à la fin étaient des milliers, eh bien, certains, bon, voilà, étaient des croyants, mais n'avaient pas cette vocation spirituelle qu'avait Abou Bakr, qu'avait Ali, qu'avait Omar et d'autres.
Oui, mais alors, est-ce que vous pensez, vous qui avez écrit un livre qui s'intitule « L'islam sera spirituel ou ne sera plus », est-ce que vous pensez que c'est encore vrai, c'est-à-dire que cet enseignement du soufisme est quand même réservé à ceux qui peuvent le recevoir? Ou est-ce que vous pensez qu'au contraire, sans cette vie que le soufisme a réussi à insuffler dans la communauté musulmane, eh bien l'islam deviendrait une branche morte?
Certes, bien sûr. Alors là, il y a deux choses. Bon, il est clair que bon, ça, c'est le propre donc, de toute religion. Si sa spiritualité ne peut plus respirer ou ne peut plus nourrir en fait, les croyants donc, de cette religion, donc de telle ou telle religion, celle-ci, elle se sclérose, mais au sens presque physique du terme. Lorsqu'on reste à un niveau dogmatique ou bien exotérique, les religions entre elles se heurtent, elles se confrontent. Alors que si on est dans le noyau chaud, je dirais, donc en fusion, qui est donc celui donc de l'esprit, et donc intérieur, donc le fruit intérieur, eh bien, il y a toujours cette vie et qui sans cesse peut justement reproduire les formes. Qui peut adapter les formes au temps. Un des adages soufis, donc très connu, c'est que le soufi est le fils de l'instant. Alors, c'est l'instant donc, au niveau spirituel, c'est-à-dire qu'il vit ce que Dieu lui donne à vivre comme présence spirituelle. Dieu, en tant que présence spirituelle, s'impose ou bien s'offre dans tel ou tel contexte. Et donc, Dieu est à vivre dans cet instant. Mais cet adage peut aussi être interprété comme soufi, le fils de son époque. Et de fait, là où les sciences formelles, précisément islamiques ou autres, d'ailleurs, sont souvent figées, parce qu'elles sont formelles et parce qu'elles sont mentales, donc elles sont mortelles, elles sont même morbides parfois. Alors que la vie de l'esprit, elle, par contre, elle est toujours immédiate, elle est toujours instantanée. Et ceux qui ont eu l'expérience de côtoyer tel ou tel maître spirituel, soufi ou autre, j'imagine, le voient. Et ils voient que ces êtres-là sont des êtres d'ailleurs très pragmatiques. Ce sont des gens qui sont très incarnés parce qu'ils ont charge d'âme, donc ils sont très lucides. et d'où la souffrance. Et le Cheikh Alaoui en parle aussi parfois donc, dans ses poèmes. Il dit qu'il souffre de voir donc, le niveau donc, des humains en général et de ses disciples aussi parfois, parce qu'il a un degré de conscience, comme tous ces êtres évolués, et cette distanciation, cette distance, en effet, peut créer à la fois la souffrance et aussi le fameux humour soufi. C'est-à-dire, lorsque je constate ce sur quoi vivent les hommes, quelles sont leurs motivations ? En général, enfin, homme ou femme, bien sûr, etc. Eh bien, parfois j'en ris. Enfin, je parle de ces gens-là. Hein, c'est-à-dire, il y a ce degré de conscience qui est là et qui s'impose à nous, cette lucidité, extrême lucidité. Encore une fois, avec ses aspects donc gays, enfin le gay savoir, un peu nietzschéen comme ça, un peu et très provocateur, presque un peu violent. Un maître spirituel peut être violent parce qu'il casse l'idole. Qui est en fait dans le disciple. Et puis, il y a cet aspect, donc, humour, parce que, comme disait un cher, mais bon, tout cela, c'est un théâtre divin. Hein, donc, on joue un petit peu la Maya hindoue, c'est-à-dire, il y a un jeu divin, même si le Coran nous dit qu'il n'a pas créé les cieux, la terre en vain, c'est-à-dire, et pour jouer, certes, mais en même temps, il y a chaque créature, humain mais autre aussi, joue ce qu'il a joué.
سبحان من خلق الخلق بحكمته سبحان من خلق الخلق بحكمته وصورهم وسط الحشا بقدرته سبحان من مكون الأكوان صوره وخلق من غير أب عيسى وسط حشاي أمه سبحان اللي صور وانشاه في بطن أمه بنت باكر افتاه ما يدري حديناه بابا غير الله الواحد الدايم ما
على ابني مريم سلام الله على ابني مريم على ابني مريم عيسى روح الذي أعلى
يا الأخوان حين ظهور واشتاق
Vous êtes sur France Culture dans l'émission Les Racines du Ciel en compagnie d'Éric Geoffroy. Nous parlons du soufisme, Lélie.
Tout à l'heure, on a dit qu'on dirait deux mots de qui était Cheikh Alaoui, dont nous avons cité un poème et que vous avez cité plusieurs fois, et sur qui vous préparez un livre qui est à paraître en septembre prochain. Mais avant septembre prochain, vous pouvez peut-être nous dévoiler quelques aspects de qui il était.
Oui. Oui, c'est un livre CD en fait. Pourquoi ? Parce que ces poèmes que j'ai traduits sont beaucoup chantés, toujours a cappella. Le Cheikh Alaoui, c'est un maître algérien issu de l'école spirituelle soufie Chazilia, qui est donc né au XIIIe siècle, avec le fondateur est Abul Hassan Chazili, qui était marocain d'origine, mais qui a donné une expansion à sa voie initiatique en Égypte. Et puis voilà, donc, et il y a eu plusieurs grands maîtres qui ont adapté en fait, ou bien qui ont réformé cette voie en fait au cours des siècles. Et c'est la grande voie spirituelle à la fois du Maghreb arabe et du Proche-Orient aussi. Donc le Cheikh Alaoui va être un rénovateur, donc il est appelé souvent El Mujaddid, c'est-à-dire le rénovateur pour tel siècle de la spiritualité, donc de l'islam. Bon, après d'autres peuvent proposer d'autres noms, mais disons qu'il est, si on mesure son audience, par exemple, un moine cistercien américain tel que Thomas Merton a correspondu avec lui et a écrit sur lui, par exemple. Vous voyez, donc il a une audience encore actuellement internationale, au Pakistan, etc., et qui peut surprendre parce qu'il vivait en Algérie à l'époque coloniale. Voilà. Donc il naît, enfin bon, très, très schématiquement, il naît en 1869 et il meurt en 1934. Et ce qui est frappant, c'est d'une part, c'est que sa doctrine est très universaliste. Alors que nous sommes donc en période coloniale française, il a des liens avec des religieux donc chrétiens français, comme en avait d'ailleurs l'émir Abdelkader avant lui. Et il, et par exemple, on sait qu'il apprécie Bergson, par exemple. Vous voyez, donc il a dans sa zawiya donc de Mostaganem, il a accès à une culture, je dirais aussi, y compris donc européenne. Et ce qui est alors frappant, c'est que justement les Européens qui viennent le voir, parce qu'ils sont nombreux, notamment donc en Algérie à cette époque, ils sont tous frappés par son apparence christique. Alors là, une parenthèse doctrinale, dans le soufisme, et Ibn Arabi en parle beaucoup, un saint musulman hérite ou peut hériter d'un prophète du passé, mais toujours en passant par la personnalité spirituelle, donc synthétisante du prophète Mohammed, qui synthétise tous les types prophétiques antérieurs. Donc, dans le soufisme, un saint peut être identifié, je dirais presque, comme étant christique, moïsiaque, abrahamique, avec certaines caractéristiques, mais bien sûr en étant héritier, donc, en fait, mohammedien. Mais ce qui est intéressant, précisément, c'est que cette tariqa, cette voie initiatique, a eu un rayonnement très tôt, dès les années 1920, vers l'Europe. Et le successeur actuel, enfin le successeur donc principal, hein, donc de cette confrérie, parce qu'il y a plusieurs branches, comme ça se passe toujours avec les confréries. Donc à la mort d'un cheikh, il y a toujours l'une ou l'autre scission, ça c'est. Mais donc le cheikh principal, qui est donc le cheikh Khaled Ben Tounes, il vit en France. Voilà, donc c'est une confrérie qui a donc vocation à être elle a une vocation à pratiquer le dialogue, notamment islamo-chrétien, enfin un dialogue, je veux dire, plus qu'un dialogue formel, hein, et puis à témoigner donc de cette présence du soufisme en Occident. Et on voit qu'il y a des Occidentaux, des Européens, des Français, mais aussi des autres, qui, dès les années 1920, 30, 40, vont à Mostaganem, ou bien sont en France, et suivent cette voie initiatique. Donc c'est très précoce, je dirais.
Moi, j'aimerais vous poser une ou deux questions concrètes. Je voudrais savoir, quels sont des exercices concrets que font les soufis ? Est-ce qu'ils méditent ? Est-ce qu'ils chantent ? Enfin, quelles sont les choses qui vous aident à progresser spirituellement ?
Oui. Alors, il y a une pratique centrale qui est donc très connue, généralement, qui est celle du zikr. Le zikr est très connu parce que c'est scripturaire. Je veux dire que le Coran, donc le hadith Qudsi, donc le propos saint et les paroles du prophète incitent les croyants à pratiquer le zikr. Le zikr, ça veut dire à la fois souvenir et invocation de Dieu. Et donc, les soufis pratiquent cette invocation de Dieu, donc de manière diverse, avec diverses formules, surtout à partir des noms divins. Les noms divins, donc canoniques, sont au nombre de 99, le centième est ineffable, mais les soufis disent qu'ils sont infinis, puisqu'il y a autant donc de noms divins qu'il y a de théophanies. Or, les théophanies divines, c'est Dieu se manifeste donc à chaque instant, sans jamais se répéter. Donc, c'est une pratique centrale à partir des noms divins. Le nom de l'essence divine étant Allah, mais il y a beaucoup de noms qui ont des vertus et ces vertus ont été énoncées, travaillées par les maîtres, et donc c'est écrit ou bien c'est oral. Alors, le but est bien sûr spirituel, mais il y a aussi des buts thérapeutiques. Voilà, donc le zikr résume en soi toute la pratique soufie, je dirais. Mais c'est appeler en soi la présence divine et la présence mohammedienne et la présence des saints, etc., pour qu'ils nous investissent et bien sûr pour qu'à ce moment-là, je me dépouille de mes attributs égotiques. Et là, on reçoit un peu le bouddhisme, c'est-à-dire que je vois que mes agrégats, c'est-à-dire que mon moi, que je crois donc très constitué et très cohérent, n'est qu'une suite donc d'agrégats. Et le soufisme, en fait, il ne dit pas autre chose. Donc, il y a un lâcher-prise de ces pulsions, de ces illusions.
De l'illusion de l'ego, quoi, finalement.
Voilà, voilà.
Mais alors, on a vu que dans le bouddhisme, cette prise de conscience, cette connaissance que l'ego n'est qu'une illusion, vient beaucoup du silence. En fait, c'est à travers la méditation aussi silencieuse qu'on découvre ça. Est-ce qu'il y a l'équivalent dans le soufisme, ou c'est plutôt par la prière en tant que relation avec Dieu que cette prise de conscience se fait ?
Alors, parfois les soufismes définissent leur discipline comme étant la science du silence, voyez. Ceci dit, alors il y a même de les formes de zikr, enfin donc d'invocation. Certaines confréries pratiquent ça de manière silencieuse, et d'autres donc à voix haute. Mais c'est toujours le silence intérieur qui en fait est recherché. Simplement, lorsqu'il faut témoigner, lorsqu'il faut être présent, lorsqu'il faut parler, eh bien, à ce moment-là, voilà, je veux dire, il faut activer les organes même extérieurs, vous voyez ce que je veux dire. Bien sûr, il y a un adage soufi, très, très beau, je trouve, qui dit que, finalement, la pratique, et surtout dans notre monde, et surtout en ville, c'est la khalwa fil jalwa, c'est-à-dire c'est la retraite spirituelle, donc la retraite intérieure au milieu de la foule. Donc, si je suis à Paris, par exemple, eh bien, je dois en même temps trouver mon axe intérieur, puisque, en fait, en islam, il n'y a pas de temple. Le temple est toute la terre, comme disait le prophète. Et donc, mon axe intérieur, celui de l'unicité divine, me permet d'être à l'aise au niveau spirituel, j'entends, partout. Hein, c'est-à-dire, encore une fois, dans les conditions optimales, hein, dans un centre soufi, etc., bon, ou bien une église, ou bien, etc., mais aussi dans des conditions moins agréables. Il faut arriver à ressentir cette présence en soi. Et alors, bon, les soufis ont des paroles un peu dures, des fois, et qui brûlent tous ces attributs, en fait, égotiques. Donc, la voix peut être à la fois douce, hein, bon, donc une voie de miséricorde, hein, bon, parce que le Dieu d'Islam, donc, qui se définit comme étant pure miséricorde, et en même temps, bien sûr, la voix soufie, c'est une voix, c'est, comment dire, on la compare à la lame du rasoir, hein, c'est-à-dire que, comme toute voix initiatique, c'est une voix difficile, c'est pour ça que Razali lui-même et d'autres disent qu'il faut un maître spirituel qui a cette expérience et qui vous évite de faire trop d'écueils. Et le rattachement, en fait, aux confréries, hein, parce que donc il y a une chaîne initiatique qui relie le disciple à un maître vivant, et ce maître vivant a été lui-même initié et donc désigné par un maître donc défunt, et remonte ainsi. Enfin,
c'est exactement
en fait,
comme les bouddhistes. Hein,
bien sûr, bien sûr.
Et dans la pratique quotidienne, je veux dire, au-delà de ces temps de zèkre qui peuvent effectivement survenir à tout instant, quelles sont les pratiques soufis, je veux dire, de la vie en société avec les autres? Quelles sont les prescriptions de vie quotidienne quand on est un soufi?
Écoutez, ben, là, je citerai un maître contemporain qui dit que ce qu'Ibn Arabi appelle « el-insan el-kamil », c'est-à-dire l'être humain, bon, ce n'est pas l'homme mâle, hein, c'est l'être humain accompli, ce n'est pas celui qui est dans des hautes sphères, vous voyez, enfin, d'une bulle comme ça, enfin, très, très éthérée, non. C'est ce que je disais un petit peu avant, d'ailleurs. C'est l'être humain qui donne son haq, son droit, à tous les niveaux de l'être, et à tous les niveaux de l'être, chez l'autre et aussi en lui-même. Donc, il ne néglige rien et il se déplace et il vit au même moment, je dirais, ici et maintenant, tous les niveaux, hein, bon, ça c'est l'idéal, bien sûr, du plus métaphysique au plus physique. Et d'ailleurs, en islam, vous savez qu'il n'y a pas de scission entre l'esprit et la matière, entre l'esprit et la chair. Et ça, on le voit donc à travers l'éthique islamique, mais les spirituels le vivent également, donc d'un point de vue en fait, très initiatique. C'est-à-dire, ce que j'ai pu réaliser, donc d'un point de vue spirituel, n'a aucune valeur si ça ne sert pas l'humain. Et c'est ainsi que beaucoup de confrères, enfin de milieux soufis, on va dire, enfin de groupes soufis, sont investis dans l'écologie. Hein, ils ont fondé, ils ont créé même des fondations écologiques, hein, au Maghreb ou en Europe, etc. Dans l'économie. Là, je participe à un colloque, bon, c'est pas uniquement avec des soufis, bien sûr, mais où je parlais de soufisme et économie. Le soufi ne néglige pas, enfin, il ne néglige aucun aspect donc, du réel. Parce que Dieu travaille dans le détail, à vrai dire. Et donc, si je néglige donc, ces aspects pratiques, apparemment, même mondains, eh bien, je néglige les effets de la présence de Dieu en ce monde. Or, le soufisme ne se veut pas un refus du monde, hein, globalement, schématiquement. Il se veut, je dirais, il épouse le monde pour mieux le transcender. Mais il épouse le monde pour voir la beauté de Dieu dans celle du monde.
Alors, nous n'avons plus que quelques minutes, mais puisque vous avez parlé d'épouser, ça me permet d'aborder une question qui me tenait à cœur, qui est la question de la femme. Il me semble quand même que le soufisme est peut-être le lieu où on a fait le plus de place à la femme dans la civilisation de l'islam. Que ce soit par l'accueil des femmes dans des consoeries, si j'ose dire, que ce soit par... au-delà de ça, je dirais même par une sacralisation en fait du féminin. Et je vous ai apporté un texte assez étonnant en fait d'Ibn Arabi qui est extrait de la Sagesse des Prophètes. C'est un des textes que je préfère d'ailleurs d'Ibn Arabi. Je trouve ça un des plus forts et peut-être aussi un des moins compliqués à lire. Donc je le recommande à nos auditeurs. En tout cas, c'est un texte très saisissant sur le fait que finalement, le fameux Enson Campbell dont vous avez parlé, donc l'homme parfait, peut-être serait une femme. Lorsque l'homme contemple Dieu dans la femme, sa contemplation porte sur ce qui est passif. S'il le contemple en lui-même, en vue de ce que la femme provient de l'homme, il le contemple en ce qui est actif. Et lorsqu'il le contemple seul, sans la présence d'une forme quelconque issue de lui, sa contemplation correspond à un état de passivité à l'égard de Dieu, sans intermédiaire. Dès lors, sa contemplation de Dieu dans la femme est la plus parfaite, car c'est alors Dieu en tant qu'il est à la fois actif et passif qu'il contemple, tandis que dans la contemplation purement intérieure, il ne le contemple qu'en mode passif. Aussi, le prophète, sur lui la bénédiction et la paix, dut-il aimer les femmes à cause de la parfaite contemplation de Dieu en elles. On ne saurait jamais contempler Dieu directement, en l'absence de tout support, sensible ou spirituel, car Dieu, dans son essence absolue, est indépendant des mondes. Or, comme la réalité divine est inabordable sous ce rapport de l'essence, et qu'il n'y a de contemplation que dans une substance, la contemplation de Dieu dans les femmes est la plus intense et la plus parfaite. Et l'union la plus intense, dans l'ordre sensible qui sert de support à cette contemplation, l'union la plus intense est donc l'acte conjugal. Je pense que c'est assez étonnant de se dire que ce texte est un texte de la haute spiritualité islamique.
Tout à fait. Mais enfin, il faut comme dire que c'est conforme, là encore, à cette éthique islamique qui, encore une fois, qui incarne l'esprit dans la chair. C'est-à-dire, l'acte sexuel, pour en parler, est recommandé en islam, dans un cadre légal en principe. Mais bon, là aussi, donc, nous avons donc, le modèle prophétique, qui recevait le prophète qui recevait la révélation dans les bras de Aïcha. Par exemple, donc Dieu parle au prophète, Dieu communique au prophète alors qu'il est dans les bras donc de sa femme. Voyez. Et alors, en effet, donc Ibn Arabi et son disciple à travers le temps, l'émir Abdelkader, vont très loin. Et moi, je sais que quand j'en parle, bon, ça m'arrive d'en parler ici ou là, ça choque presque les femmes de voir que ces êtres-là donnent une telle force au féminin. Elles sont presque choquées, ça m'a surpris. L'imam Abdelkader part du Coran pour dire que la femme réalisée, enfin accomplie sur un plan spirituel, est supérieure à l'homme parce qu'elle elle a l'aspect bien sûr réceptif, donc elle reçoit l'homme, elle reçoit la semence, etc. Mais elle est active sur un plan spirituel, alors que l'homme ne peut être qu'actif. Etc., etc. Donc nous avons tout un... Enfin, il y a beaucoup donc de doctrines chez Ibn Arabi et chez l'imam Abdelkader qui montrent à quel point la femme réalisée est finalement est le prototype humain primordial. Enfin,
alors disons, c'est sur cette phrase magnifique et cette touche féministe, nous devons clore cette émission. Voilà. Et donc je rappelle votre dernier ouvrage, Le Soufisme, qui est un guide très pratique, nombreux encadrés aux éditions Erol. Merci beaucoup.
Merci à vous.
C'était Les Racines du Ciel, une émission de Frédéric Lenoir et Lélie Anvar. La semaine prochaine, nous recevrons Françoise Bonnardel, qui nous parlera du réenchantement de la pensée. Je rappelle que cette émission est podcastable pendant un an et réécoutable pendant 1000 jours. Excellent dimanche à tous.